L'OIT va célébrer son centenaire et évidemment on ne peut qu'être absolument étonné, stupéfait de la résilience dont elle a fait preuve, et une résilience qui est d'autant plus remarquable que, premièrement, elle a été conçue sans aucun modèle préexistant. Deuxièmement, elle a traversé le siècle le plus sanglant et chaotique de l'histoire. Et troisièmement, son existence a quand même été en péril à diverses reprises, et en tout cas à deux reprises. D'abord, pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où elle n'a pas suivi, elle a réussi à ne pas suivre la SDN dans son naufrage, et au contraire à sortir de la guerre mondiale en se mettant du côté des alliés de bonne heure et en devenant la première institution spécialisée des Nations Unies. Et la deuxième crise qu'elle a survécue, c'est la crise du départ des États-Unis, dont on n'a pas parlé hier, mais qui est pourtant très importante, et une crise qui mettait en cause, en fait, la compatibilité d'un des choix essentiels qu'elle a fait, un choix très courageux, qui était celle de l'universalisme, et donc la compatibilité de ce choix avec la structure tripartite de l'OIT. Et là encore, elle est sortie victorieuse de cette crise, et non seulement elle est sortie de cette crise, mais au fond, elle a le pari de l'universalisme a été un pari gagnant, puisque à la sortie de cette crise, et quelques années plus tard, elle a triomphé de son rival de toujours, le modèle bolchevique de justice sociale, puisque avec la chute du mur de Berlin, elle est restée comme le seul modèle de justice sociale après l'effondrement du bloc soviétique. Mais au seuil de son centenaire, la menace le risque qui menace l'OIT, ce n'est pas un risque existentiel, à mon avis, c'est un risque essentiel, c'est-à-dire qui concerne sa raison d'être et en particulier, spécifiquement, son rôle de régulation de l'économie mondiale. Alors, pour le comprendre, il faut brièvement essayer d'identifier quelle est cette raison d'être, et pour cela, il faut dire ce qu'elle n'est pas. Et la raison d'être, ce n'est pas les finalités de l'OIT, ce n'est pas la paix et la justice sociale. La paix et la justice sociale, ce sont ses finalités. La justice sociale n'est pas définie, Sandrine a dit hier que ça avait posé des problèmes à Albert Thomas, mais en réalité, il y a une réponse à ce qu'est la justice sociale. Ce n'est pas une inepte incantation, comme avait dit Hayek, c'est un processus qui consiste à poursuivre certains objectifs qui sont définis dans la Constitution, avec une certaine méthode, qui est la méthode réformiste, et qui s'exprime à travers, justement, le tripartisme. Et il faut distinguer aussi cette raison d'être de ses moyens. C'est nécessaire parce qu'on a souvent considéré que l'OIT, la raison d'être de l'OIT, c'était l'action normative, parce que l'action normative occupe la majorité de la constitution de l'OIT. Pratiquement, si vous regardez, il y a peut-être trois quarts des articles de la constitution qui se rapportent directement ou indirectement à l'action normative. Mais non, ce n'est pas l'action normative est un moyen. C'est le moyen principal, et à côté de ce moyen, il y a bien sûr la recherche. Et il faut signaler que Albert Thomas, le premier directeur, accordait beaucoup d'importance parce qu'il estimait que c'était l'un des moyens par lequel on pouvait rétablir l'équilibre entre les employeurs et les travailleurs, les employeurs ayant beaucoup plus de capacité de recherche que les travailleurs, et donc l'OIT devait suppléer au déficit de capacité des travailleurs. Et à côté de cela, il y a l'assistance technique. Alors hier, on a parlé beaucoup d'assistance technique dans les expériences dont Sandrine nous a parlé. Et il est vrai que Morse avait mis la coopération technique d'assistance technique pratiquement au même niveau que l'action normative, sinon même au-dessus. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que, donc, la raison d'être? La raison d'être, il faut la chercher pour l'identifier à quelles sont les fonctions propres de l'OIT en tant qu'entité distincte de ses États membres, quelles sont les fonctions qu'on lui a confiées pour atteindre des objectifs qui sont dans la Constitution et que les États membres ont reconnu ne pas pouvoir atteindre séparément. Et donc, il y a, moi j'identifie deux de ces fonctions. La première, c'est ce que j'appellerais une fonction de magistère, c'est-à-dire c'est la fonction qui consiste à traduire concrètement et en fonction des circonstances de temps et de lieu, les grands objectifs qui sont énoncés dans la Constitution. Et pour vous donner l'exemple, on a cité hier, il y a des objectifs qui changent de contenu. Par exemple, l'interdiction du travail de nuit des femmes faisait partie du travail réellement humain au moment où a été conçue l'OIT, et ce n'est plus le cas. Et pour le travail forcé, c'est pareil, on a parlé hier à propos du protocole sur la Convention 29 qui fait entrer dans la définition du travail forcé des pratiques telles que le trafic humain, etc. Bon, alors, deuxième fonction, c'est la fonction de régulation. C'est une fonction très importante, je devrais avoir, je sais pas, j'ai mis la Constitution, mais c'est celle à laquelle fait référence le préambule qu'on a cité plusieurs fois hier et qui dit que, attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail fait obstacle aux efforts des autres nations. Donc, la question qui est en jeu là, c'est la question de la régulation de la concurrence entre les États, qui est dû à ce qui existait à l'époque déjà, c'est-à-dire ce qui était la première, certains ont dit que c'était la première, d'autres la deuxième mondialisation qui existait à cette époque et qui faisait que, évidemment, les États étaient en concurrence et que la concurrence poussait certains à des pratiques de dumping social. Et donc, ce que dit ce préambule est extrêmement important, mais il faut savoir l'interpréter. Et je crois qu'on n'a pas assez justement interprété. Ce que cela demande, ce n'est pas des résultats équivalents de la part de tous États, ce qui serait absurde. Ce que ça demande, si vous lisez bien les textes, c'est des efforts de la part des États pour traduire de bonne foi les bénéfices qu'ils retirent de leur interdépendance et de la division internationale du travail en termes de progrès social. Donc, au fond, c'est un engagement de la part des États à jouer le jeu du progrès social. Et je crois que c'est très important, j'y reviendrai, parce que c'est là qu'il y a un déficit, probablement, d'interprétation normative, enfin de traduction normative de cette fonction-là. Alors, le paradoxe en ce qui concerne ces fonctions, c'est qu'elle se trouve pour la première fois, en fait, en mesure de remplir cette fonction. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rendre compte que c'est ce que disait un rapport du directeur général de 2007, que peut-être pour la première fois maintenant, donc à l'approche de son centenaire, l'OIT est en mesure de faire ce pourquoi elle a été créée. Et pourquoi ? Pourquoi ce paradoxe ? D'abord, parce qu'il faut se rendre compte qu'avant-guerre, par suite des crises économiques et du reflux protectionnisme, l'OIT n'a pas vraiment été capable de remplir cette fonction. Et ensuite, on a sauté dans la guerre froide, où ce qui était prédominant, ce n'était pas la concurrence économique, c'était la concurrence politique. Et donc, elle est devenue tout d'un coup, elle a été mise au pied du... Elle est maintenant mise au pied du mur de remplir cette fonction, parce que la chute du mur de Berlin a mis fin à l'affaire de la guerre froide. Et d'autre part, et ça c'est un peu mon point de vue, c'est que la chute du mur de Berlin a entraîné une nouvelle phase de mondialisation exacerbée, et que cette nouvelle phase de mondialisation se traduit aussi par un malaise de la mondialisation qui s'est traduit, on y a fait référence aussi, dans les urnes et dans les rues, en particulier des pays, pas de tous les pays, mais des pays qui avaient été le moteur et le vecteur de la libéralisation des échanges entre les États. Alors, sur cet arrière-plan, il y a évidemment deux questions qui se posent. Cette nouvelle situation offre une occasion à l'OIT, justement, de revenir à cette fonction, ou de remplir cette fonction. Mais il y a deux questions qui se posent. En est-elle capable? Et ça, c'est une question institutionnelle, c'est-à-dire, est-ce que finalement son histoire ne montre pas qu'elle est un peu victime de ce que j'appellerais le syndrome de la grenouille, c'est-à-dire qu'elle a vu plus grand que ce qu'elle est, ou elle a essayé de faire plus que ce qu'elle est capable de faire avec ses moyens institutionnels. Deuxième question, est-ce qu'elle aura la capacité ou la volonté de se saisir de l'occasion que, à mon avis, le présent contexte de malaise de la mondialisation peut lui offrir de réactiver sa fonction de régulation. Alors je parle d'abord de la question de la capacité institutionnelle de l'EIT. Et ça, cette question est évidemment une question complexe qui met en jeu toute une dialectique de paire de facteurs. Il y a d'une part le lien entre la légitimité pour réguler et la structure tripartite. Il y a ensuite le lien entre la légitimité pour réguler et la capacité de le faire avec les moyens dont elle dispose. Et la troisième chose, c'est qu'il y a le lien entre la structure tripartite et sa complexité et la volonté de réguler. Et donc je voudrais brièvement passer en revue ces trois aspects qui sont très importants. On ne peut pas entrer dans les détails, évidemment. Je vais galoper un petit peu, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fond, la structure tripartite n'est pas une fin en soi. Alors je passe à la première question, c'est-à-dire le lien entre la légitimité tripartite et la structure tripartite. Donc, la structure tripartite, ce n'est pas une fin en soi, c'est la traduction institutionnelle de la vision réformiste de l'OIT, qui est d'assurer le progrès social, sinon la justice, par la conciliation des intérêts, la conciliation libre des intérêts correctement représentés, enfin, à travers leurs représentants légitimes. Mais évidemment, cette structure tripartite s'organise dans un cadre national parce que ça correspond à la situation de la société internationale. Et alors, c'est ce cadre national qui crée une tension, d'abord, une double tension, d'abord par rapport à l'universalisme, la composition universelle de l'OIT, et ensuite par rapport à la compétence, à la vocation à la compétence universelle de l'OIT. Par compétence universelle, je veux dire la compétence pour s'occuper de tous les aspects du travail. Alors j'évoque simplement le problème. La tension entre la vocation, la composition universelle et le tripartisme, évidemment, ça s'est posé surtout du côté du groupe des employeurs qui a été confronté à la question de la représentation des directeurs d'entreprises socialistes et qui a résisté farouchement à leurs prétentions au nom du fait que ces emplois, soi-disant employeurs, était en réalité subordonné à des intérêts autres. Et comme, cette tension qui était très très dure s'est évidemment résolue avec la chute du mur. Mais la chute du mur n'a pas complètement résolu, mais elle a fait apparaître un autre problème que je me contente d'évoquer, mais qui est peut-être très important, c'est celui du transfert du pouvoir de décision du niveau national et des managers au niveau international, financier et des actionnaires. Et peut-être que là se pose une question sur le plan justement de la subordination des employeurs qui sont représentés à l'OIT par rapport à, on peut faire un parallèle, disons, entre le nouveau problème de subordination que ça peut représenter, mais je n'entre pas davantage sur cette question. Pour évoquer simplement, alors quel est le problème du côté des travailleurs, de la tension tripartite. Alors là, cette tension entre, avec l'universalité de la compétence de l'OIT, on en a parlé hier, c'est-à-dire ça ne s'est pas fait du premier coup. L'OIT était conçu essentiellement par ses fondateurs comme surtout destiné au travail traditionnel, salarié, etc. Et la compétence est étendue à toutes les formes de travail pour autrui, d'activité pour autrui rémunérée. Et ça crée un problème parce que ça peut créer un problème parce que les travailleurs sont représentés au niveau national à travers les organisations les plus représentatives, lesquelles sont en général dirigées davantage vers les formes classiques traditionnelles de travail salarié, industriel, service, fonction publique. Et alors cette situation brouille les frontières, d'abord entre les employeurs avec les nouvelles formes, alors j'ose pas dire les formes, atypiques de travail, je dis les nouvelles formes, parce que ça brouille la frontière avec les employeurs, d'une certaine façon, et d'autre part, l'extension de la compétence à l'ensemble, qui va au-delà, d'après la déclaration de Philadelphie, qui peut s'étendre à toutes les personnes qui en ont besoin, comme c'est le cas en matière de sécurité sociale, ben ça brouille aussi la frontière avec les citoyens, tout simplement. Parce que ça, c'est une question qui se pose, non pas seulement pour les travailleurs, mais pour les citoyens en général. Bon, quels sont les... Il y a des perspectives de desserrer le carcan étatique qui enserre le système de représentation, mais je crois que je reviendrai sur la question si c'est nécessaire ou dans la discussion. Deuxième problème, c'est le dialectique de la légitimité tripartite pour réguler et la capacité de le faire. Alors là, on est évidemment, la légitimité, la structure tripartite est absolument essentielle dans la capacité de réguler de l'OIT. Pourquoi ? Parce que c'est le support de sa capacité de persuasion. Or, parce qu'en effet, il faut se dire que les fondateurs de l'OIT ont dû renoncer au choix initial qui était de confier à la Conférence internationale du travail le pouvoir de légiférer, carrément, parce qu'ils ont rendu compte que ça ne pouvait pas marcher, pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir. Et donc, ils ont opté pour ce système classique de convention qui ne crée des obligations que si elles sont ratifiées. Et donc, ce système-là pose un double défi. D'abord, le défi du caractère volontaire. Est-ce qu'on peut réguler de façon efficace seulement par la persuasion ? Deuxième défi, c'est le caractère interétatique, c'est-à-dire les destinataires de l'action normative de l'OIT sont exclusivement les États. Or, on est dans une société qui n'est plus seulement composée d'États. Alors, je veux simplement dire au sujet de cette question, le premier dilemme qui est celui de réguler par la persuasion, on a dit que c'était, enfin, certains pensent que c'est la source de l'incapacité, que c'est ça le vrai problème de la capacité de réguler. En réalité, pour moi, c'est un faux problème parce que je pense que n'importe quelle forme de régulation passe par la case persuasion de toute façon. On a bien vu avec toutes les tentatives de réguler de façon contraignante, comme la charte de la Havane ou comme l'idée des clauses sociales à inscrire dans le cadre de l'OMC, qu'il fallait d'abord passer par la persuasion et qu'on n'a pas réussi à persuader l'ensemble des États membres d'accepter un système contraignant. Donc on est bien obligé de se contenter de la persuasion. Et selon moi, ce qui est le problème, ce n'est pas qu'on fait appel à la persuasion, c'est simplement qu'on n'applique pas de manière cohérente les outils que l'on a pour persuader. Et j'en citerai deux exemples sur lesquels je reviendrai plus tard. C'est d'une part que l'outil normatif en particulier, il y a deux incohérences ou défauts que l'on peut noter. D'abord, on procède, alors ça c'est un mot qui a été utilisé hier, l'action normative procède par la juxtaposition d'instruments concernant des objectifs spécifiques de l'OIT qui s'inscrit dans la Constitution. Ce système-là fonctionne parfaitement pour le magistère, mais ne va pas pour la régulation, n'est pas adapté au problème de la régulation. Pourquoi ? Parce qu'il ne tient pas compte des interactions entre objectifs, premièrement, et deuxièmement, c'est qu'il ne permet pas de traduire la philosophie que je vous ai rappelé ici, c'est-à-dire la philosophie qu'il ne s'agit pas d'obtenir des résultats aux fins de régulation, il ne s'agit pas d'obtenir des résultats spécifiques, il s'agit d'encourager des efforts réciproques de la part des États membres. Et donc, il y a cette espèce de déficit, mais qui n'est pas dû à l'outil, qui est simplement dû à l'action de l'OIT. Et la deuxième incohérence, c'est que le système de supervision dont Yves Verrier parlait hier, qui a beaucoup de qualités, comporte une dimension qui est ce qu'on appelle le contrôle régulier. Je ne vais pas entrer dans les détails, il en a parlé hier, mais qui a un défaut considérable. Il a des qualités énormes parce qu'il fait appel à un système, il met en jeu un système d'experts indépendants qui est un atout évidemment remarquable. Mais d'un autre côté, tel qu'il fonctionne, il est dissuasif à la ratification. Pourquoi ? Alors j'y reviendrai. D'une part, parce qu'il implique une double peine pour ceux qui ratifient, c'est-à-dire la peine d'avoir à supporter un désavantage concurrentiel, ça c'était dans l'esprit des gens autrefois, et surtout de se soumettre au contrôle des pays qui n'ont pas ratifié. Et il comporte un triple cadeau pour les pays qui ne ratifient pas, parce que non seulement ils n'ont pas de désavantage concurrentiel, non seulement ils peuvent contrôler ceux qui n'ont ratifié, mais en plus, ils échappent au contrôle minimum qui est prévu dans la constitution de l'OIT, c'est-à-dire que la constitution prévoit un minimum de vérification sur les pays qui ne ratifient pas au sujet des raisons pour lesquelles ils ne ratifient pas. Et ça encore, je reviendrai. Alors maintenant, il y a le problème du fait qu'on est dans un monde post-westphalien, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs que les acteurs étatiques et que l'action de l'OIT, et l'action normative de l'OIT en particulier, ne s'adresse qu'aux États. Alors il y a les deux catégories d'acteurs non étatiques, les acteurs supra-étatiques, genre organisation, banque mondiale, et surtout organisation régionale. Et ces organisations, non seulement exercent une influence sur les États membres, qui peut aller à l'encontre de l'action normative de l'OIT, de la ratification même. Alors il y en a plusieurs exemples, et en particulier du côté de l'Union européenne, qui, à travers, ou la, de manière, d'une certaine façon, beaucoup plus frontale, peut carrément empêcher les États d'honorer les obligations qu'ils ont en vertu des conventions de l'OIT. C'est un peu la lutte du pot de fer contre le pot de terre, dont l'illustration a été donnée par une affaire Stöckel qui est déjà assez ancienne, mais qui peut être donné aussi par les affaires grecques, par exemple, au sujet du fait que ce qui passe d'abord, évidemment, c'est les diktats de la Troïka et les conventions de l'OIT, les obligations résultant des conventions, on verra après. Alors, la deuxième concurrence, c'est de la part des acteurs privés transfrontières. Et là, la question qui se pose, mais qu'on ne se pose pas directement, c'est dans quelle mesure l'action en faveur de la responsabilité sociale des entreprises, même si on ne peut que se féliciter du fait qu'elle permet d'accorder un traitement aux personnes qui travaillent dans les chaînes de production meilleures que nationales. Mais la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que par les pratiques d'optimisation fiscale et sociale, elle n'empêche pas en même temps les États de faire progresser la législation au bénéfice de l'ensemble des travailleurs et pas seulement des travailleurs de ces chaînes. Et le déficit de protection de législation, ça peut affecter aussi les travailleurs qui travaillent dans ces chaînes. La preuve, c'est le Rana Plaza dont on a parlé, ou qui était en large partie dû au fait que ni la législation, ni la mise en œuvre de cette législation, l'administration du travail, n'était vraiment efficace dans ce cas. Et en plus, ça crée un autre aspect qui est que, c'est-à-dire l'autre doute qu'on peut avoir, c'est que ça crée un système à deux vitesses dans les pays. C'est-à-dire il y a les pays qui sont raccrochés à la locomotive du commerce international, et puis il y a les travailleurs qui ne le sont pas. Et donc, si la législation ne s'améliore pas, eh ben, ils sont laissés pour compte. Troisième dilemme, c'est la légitimité tripartite pour réguler et la volonté de le faire. Alors, je passe rapidement parce que le tripartite, c'est un facteur de légitimité extraordinaire, mais en même temps, c'est un facteur de complexité très grande pour parvenir à un consensus. Et alors, ce qu'il faut peut-être... Alors, à une certaine époque, on ne s'en rendait pas compte, mais justement, il y a eu une rupture qui a été introduite par la guerre froide. Enfin, par la sortie de la guerre froide, on va dire. Parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est que, au fond, la guerre froide a permis de créer une connivence entre les employeurs et les travailleurs, en particulier, qui a fait que, non seulement on a quand même adopté un régime, une production normative très importante, mais aussi on a introduit des innovations dans le système de supervision, qui était tout à fait remarquable, et en particulier sur le plan de la liberté syndicale dont on a parlé hier, c'est-à-dire un système qui permet d'exercer un minimum de contrôle sur l'ensemble des pays membres, qu'ils aient ratifié ou pas ratifié les conventions. Et alors, seulement c'était artificiel, c'était une histoire de donnant-donnant entre les employeurs et les travailleurs pour toutes sortes de raisons que je peux vous expliquer si vous voulez, mais disons que la rupture est intervenue. Dès que le mur de Berlin est tombé, là, on a commencé à assister au raidissement, en particulier des employeurs, sur des questions essentielles vis-à-vis du système de contrôle, la commission d'experts et du système de liberté syndicale. Et pourquoi ? Tout simplement parce que on était passé d'un système où ce qui était important, c'était la concurrence idéologique et politique, un système où, de nouveau, c'était la concurrence économique qui entrait en ligne de compte, et donc des questions comme celle de la liberté syndicale et du droit de grève prenaient une importance tout à fait considérable, et donc les employeurs ont raidit leur position, et c'est arrivé en particulier à partir de 2012, d'une façon brutale, vraiment brutale. Et quelles sont les raisons ? Eh bien, la raison, c'est que justement ce que je viens de vous dire, la portée du droit de grève qui peut faire obstacle au libre mouvement des capitaux devient dans ce contexte, prend un tout autre sens dans ce contexte. Deuxièmement, le succès même de la commission d'experts et du système normatif qui a été, et de la jurisprudence, entre guillemets, que ces organes ont développé, a une influence considérable sur les juridictions nationales et sur les juridictions régionales en matière de droits de l'homme, de façon que ce qui n'était que du droit doux, soft law, et avait tendance à devenir du droit dur. Et évidemment, c'est à cela que les employeurs, à mon avis, ont voulu mettre le haut là. Alors maintenant, je passe donc à la deuxième. À partir de là, quelles sont les perspectives d'avenir ? Est-ce que l'OIT saura se prévaloir d'un contexte où on peut estimer qu'il y a un déficit de régulation. Alors, au seuil de ce centenaire, on peut voir que l'OIT est tiraillé entre, en fait, deux tendances, qui est celle d'un effacement progressif d'une banalisation dans le système des Nations Unies, en particulier à la faveur de sa participation à l'agenda 2030 des Nations Unies, et d'autre part tiraillé dans le besoin qui semble se manifester d'une régulation pour répondre au malaise de la mondialisation, au moins dans certains pays. Et donc je voudrais analyser ces deux scénarios, c'est-à-dire ce que j'appellerais scénario standing dont on nous a parlé hier, du nom d'un ancien fonctionnaire qui a développé une thèse à ce sujet, et ce que j'appellerais le scénario du risorgimento de l'action normative. Alors, d'abord, examinons le scénario standing. Je me réfère là à un article qu'il avait sorti en 2007 et où il développait la thèse que, bon, tous ces développements extraordinaires dont l'OIT se flattait, la déclaration de 98, l'introduction du travail décent, et la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, tout ça, c'était un peu un rideau de fumée qui cachait le fait que l'OIT, au fond, était en train de dériver de sa vocation initiale de régulation et, en fait, qu'elle ne savait même pas choisir entre ces trois vocations possibles, régulation, recherche ou assistance au développement dans le cadre des Nations Unies. Alors, bon, il y a des outrances, des approximations dans toute cette thèse, mais c'est commode pour essayer rétrospectivement d'évaluer la portée des événements qui sont produits pour savoir, depuis, il y en a deux, il y a ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la crise de 2012 sur le droit de grève avec les travailleurs, avec les employeurs, et d'autre part, l'intégration du travail décent dans les objectifs du développement durable. Alors, qu'est-ce que ces deux événements nous disent du scénario d'avenir? Alors, il y a, est-ce que la crise de 2012 est annonciatrice d'une atrophie progressive du rôle de régulation normative de l'OIT, d'une part, et est-ce que l'intégration au sein des objectifs du développement durable du travail décent est l'annonce d'un rôle nouveau de l'OIT au sein du système des Nations Unies. Alors, bon, je reviens à la crise de 2012, et pour bien souligner que c'est une crise donc qui concernait le droit de grève et la liberté syndicale en général, et qui porte sur un point très spécifique, c'est-à-dire qui s'attaquait à ce que j'appelais la jurisprudence des organes de contrôle de l'OIT, en particulier la commission d'experts, selon laquelle le droit de grève, qui n'est mentionné dans aucune convention, est le corollaire nécessaire, je crois qu'il y a un pléonasme, de la liberté syndicale. C'est ça que les employeurs ont attaqué en disant que la commission d'experts n'avait pas qualité pour interpréter officiellement une convention, ce qu'elle était en train de faire. Mais cette contestation a une signification tout à fait importante du point de vue de la capacité de l'OIT à réguler. Pourquoi ? Parce que la liberté syndicale, c'est d'abord, parce que le système de protection de la liberté syndicale, c'est d'abord le seul qui s'applique à l'ensemble des États membres, qu'ils aient ratifié ou non. Bon, je remets de côté la déclaration de 98, parce qu'on pourrait dire la même chose. Et donc, c'est une amorce de vraie régulation universelle. Et deuxièmement, cette régulation touche à un droit, à l'un des droits fondamentaux identifiés par la déclaration de 98, qui est le plus enabling, alors je ne sais plus comment on a dit hier, empowerment, dans la déclaration de 98 on dit enabling, c'est-à-dire habilitant des droits fondamentaux. Et pourquoi ? Parce que, comme le dit la déclaration de 98, sans eux il n'est pas possible pour les intéressés de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses, etc. Donc nous sommes là au cœur du problème de la régulation qui est en effet, comme je vous ai dit, d'essayer de faire en sorte que les États redistribuent non seulement les avantages, mais aussi essayer de redistribuer les contraintes qui résultent de la division internationale du travail. Alors, il faut reconnaître que les développements qui sont intervenus depuis dans ce domaine, à la suite de cette crise, ne sont pas particulièrement encourageants, parce qu'on voit pas, on n'a aucune perspective de sortie de crise, Et au contraire, je dirais que comme la commission d'experts a essayé de mettre des bâtons dans les roues de ce qui, à mon avis, aurait été la solution, c'est-à-dire la création d'un tribunal pour l'interprétation, il y a eu un retour de bâton très méchant contre la commission d'experts qui a fait qu'elle a été obligée elle-même de faire une sorte de canossa chaussure aux pieds qui était de reconnaître que bon, les avis qu'elle donnait, ben, ça n'avait pas force d'interprétation. Ça avait la force de toute l'autorité qu'ils ont du fait de leur indépendance, etc. Mais ce n'est pas une interprétation faisant foi. Alors, ce qu'on peut se demander face à cette espèce d'impasse qui perdure, évidemment, les employeurs, maintenant, ils ont plus ou moins eu ce qu'ils voulaient, donc ils ne sont pas tellement tentés de réformer le système. Mais la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi les gouvernements, et en particulier les gouvernements des pays industrialisés, ne mettent pas leur poids dans la balance? Et bon, c'est bien connu que ce sont les gouvernements des pays industrialisés, en particulier les gouvernements européens, qui ont joué un rôle toujours moteur dans l'évolution, le renforcement du système, non seulement des normes, mais du système de supervision de l'OIT. Et on a l'impression qu'avec quelques exceptions remarquables, dont celle de la France, on dirait que non, ils sont relativement bons. Ça les énerve, évidemment, mais on n'a pas l'impression qu'ils veulent mettre leur poids de la balance. Et il faut se poser la question pourquoi. Et la question, à mon avis, c'est qu'ils trouvent d'autres moyens. Leur intérêt bifurque vers d'autres solutions qu'ils pensent des solutions paranormatives où ils pensent pouvoir exercer une influence beaucoup plus libre. Et alors ils se tournent vers des projets de coopération technique, vous en avez plusieurs, le Better Work par exemple, où on finance des projets qui présentent un intérêt particulier du point de vue en particulier du commerce international, et c'est aussi la question des clauses sociales, des accords de commerce, ce qui les intéresse finalement. Et alors vous allez peut-être dire, quelles sont les perspectives de Risorgimento? Ça a l'air d'être une lettre au Père Noël. Après tout le tableau plus ou moins, pas déprimant, mais pas très encourageant, que je vous ai fait. Alors, et pourtant, je suis convaincu qu'en effet, il y a des perspectives de réactivation de l'action normative de l'OIT. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a un besoin, d'autre part, il y a un potentiel de régulation, et troisièmement, pour que le potentiel et le besoin se rencontrent, il faut des circonstances. Et donc, je vais passer en revue rapidement, d'abord, le besoin. Et le besoin, alors en me rapportant à justement la possibilité que l'OIT se banalise, si on veut, dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors, parce que l'avenir, on a l'impression que l'OIT mise beaucoup. Maintenant, ça c'est ce que j'ai sauté comme développement, c'est un peu dommage, mais enfin, ça mise beaucoup sur le fait que, et il faut reconnaître que c'est une certaine victoire, que le travail décent a été intégré dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais ces objectifs, ils sont entourés d'une prose qui est absolument messianique, et d'indicateurs qui sont une application caricaturale de la gouvernance par les nombres du professeur Supio. Mais il y a deux choses, deux lacunes. D'abord, ils se sont concentrés sur l'éradication de la pauvreté. Bon, ça c'est très bien, mais plus que sur la justice sociale. Et bon, ça se comprend, parce que d'abord, ça fait moins partageux que la justice sociale, et deuxièmement, c'est que la perspective d'éradiquer la pauvreté, c'est aussi la perspective de créer des marchés. Donc, ça convient beaucoup mieux à tout le monde. Mais malheureusement, au-delà de la lutte contre la pauvreté, il y a quand même le problème de répartition. Et là, on ne trouve pas de réponse vraiment, sauf une réponse vague, qu'il faut lutter contre les inégalités au sein et entre les pays. Mais il n'y a pas de réponse au fait, à ce qui fait le malaise de la mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gagnants, des perdants, et que finalement, il n'y a pas de système de... On ne se pose pas la question de savoir comment obtenir, conformément au préambule de l'OIT, une meilleure répartition des bénéfices et des contraintes de la mondialisation. Alors, deuxièmement, le deuxième défaut de ce système, c'est que ils disent que tous ces objectifs sont indissociables, mais ils ne disent pas, et c'est extraordinairement compliqué, mais ils ne disent pas comment les États doivent s'y prendre pour concilier ces objectifs extrêmement complexes. Et comme vous savez, l'expérience des portiques, des écotaxes en France a montré qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté pour régler le problème. Il y a un problème d'institutions qui permettent de faire en sorte que les objectifs, qui permettent de concilier des objectifs qui sont extrêmement complexes avec les objectifs du gouvernement. Donc l'accent, on ne peut pas laisser les États membres comme ça, débrouillez-vous, réalisez tous ces objectifs, on a des indicateurs, et puis voilà. Donc il faudrait aussi les aider à créer les institutions, ça aussi on a évoqué la question directement hier, la question de la conciliation de ces objectifs, c'est une question de législation et d'institutions internes. Et donc là, on pourrait dire, il y a un boulevard pour l'OIT, parce que on ne peut pas l'accuser, elle, d'ingérence, ça fait partie de son mandat. Vous regardez la déclaration de Philadelphie, il y a au moins une disposition qu'on n'a pas lue hier, mais qui est très importante, qui est que la déclaration, elle exhorte à des politiques visant à assurer une participation équitable de tous aux fruits du progrès, sous forme de salaire, gains, conditions, etc. Bon, donc, clairement, l'OIT a un mandat. Deuxièmement, on ne peut pas l'accuser d'ingérence non plus, parce que la question de la conciliation d'intérêts divergents, ça fait partie de ses gènes. Alors, deuxième aspect, c'est qu'elle a le potentiel pour répondre à cela. Et parce qu'il y a des réponses, parce que les incohérences que j'ai signalées sont des incohérences de la pratique, ce ne sont pas des incohérences de la Constitution. Donc il est facile d'y remédier en remédiant aux incohérences de la pratique. Alors c'est vrai en matière de supervision, parce que le grand défaut de la supervision, comme je vous l'ai dit, c'est au fond de décourager les ratifications, et surtout d'encourager les free riders, c'est-à-dire les passagers clandestins qui ne ratifient pas et qui se soustraient à toute espèce de contrôle. Or ça, c'est pas du tout ce que la Constitution prévoit. La Constitution prévoit qu'il y a un article 19 qui permet à l'OIT d'exercer un contrôle sur les motivations pour lesquelles les pays ne ratifient pas. Mais comme tout l'accent est mis sur le contrôle des pays qui ratifient, on n'a plus de ressources ni de temps de mettre pour ce... Donc là, ça serait une question, importante, très importante, de rétablir l'équilibre entre pays qui ratifient et qui ne ratifient pas. Et c'est une question de crédibilité pour l'organisation. Parce qu'on l'a dit hier, je crois que Bernard Thibault l'a dit, c'est quand même, il faut quand même se souvenir qu'il y a plus de la moitié de la population mondiale qui n'est pas couverte, même par les normes fondamentales. La seule façon d'y remédier, c'est d'utiliser davantage cet article 19. Alors, deuxième chose, c'est que l'approche normative qui a constitué à juxtaposer les normes, ce n'est pas non plus inhérent du tout à l'outil normatif. Et on peut très bien concevoir un texte normatif. Alors, pour aller vite, je donne son titre, qui serait « La politique sociale de l'interdépendance économique, technologique et environnementale », qui consisterait à donner une convention transversale qui permettrait d'encadrer l'engagement que les pays ont pris à travers le préambule que je vous ai cité, de déployer des efforts de bonne foi et réciproques en vue de redistribuer aussi bien les contraintes que les bénéfices de la mondialisation. Alors, après, il y a aussi toute l'action qu'il serait nécessaire de prendre vis-à-vis des acteurs non gouvernementaux, mais là aussi, il y a un potentiel, là, je passe aussi très rapidement, vis-à-vis des organisations étatiques, la Banque mondiale, etc., l'Union européenne. Je pourrais vous donner des exemples de ce qu'il est possible de faire, mais fondamentalement, on devrait pouvoir utiliser beaucoup mieux le potentiel de persuasion énorme de la Conférence internationale du travail, en organisant, ce qui était d'ailleurs prévu de faire dans les déclarations de Philadelphie, des débats à intervalles réguliers sur l'impact des politiques financières, etc., sur la réalisation des objectifs de l'OIT. Donc là, ça mettrait le poids, ça donnerait un levier beaucoup plus important. Vis-à-vis des acteurs privés, je crois que la question, c'est comment utiliser la responsabilité sociale des entreprises de telle sorte qu'elle ne décourage pas la ratification des conventions, mais au contraire qu'elle puisse contribuer, même au-delà de la ratification des conventions, l'amélioration de la législation et des administrations nationales. Et à mon avis, il y a tout un champ à explorer ici qui est d'avoir recours à ce que j'appelle le marché de la justice, pas de la justice, mais de la vertu sociale, qui est les consommateurs, et d'essayer de, on pourrait même imaginer des systèmes de labellisation qui permettraient d'encourager les multinationales à s'engager à développer leurs activités dans des pays qui offrent, en priorité dans des pays qui offrent des garanties de législation minimales en ce qui concerne des points qui pourraient être identifiés sur une base d'accord tripartite. Alors maintenant, j'ai dit qu'il fallait encore des... Pour que les besoins et le potentiel s'accordent, il faut des circonstances. Et bon, ça y est, on me pousse. Mais je crois que il y a deux circonstances qui peuvent le permettre. C'est des catastrophes. Et c'est de ça que l'OIT a vécu, pour finir, parce que ce soit à l'origine en 1945 avec la déclaration de Philadelphie, ou même en 2008-2009 avec son admission au G20, c'est parce qu'il fallait une caution sociale et qu'alors on s'est tourné vers l'OIT. Donc, pour donner cette caution à des mesures d'austérité, la prolongation de la guerre dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais il y a une alternative à ça, qui est la célébration du centenaire de l'OIT, qui est une solution plus douce. Et bon, pour le moment, le centenaire est focalisé sur l'avenir du travail. Moi, j'ai rien contre. Mais je crois que le problème, c'est pas l'avenir du travail, c'est l'avenir de l'OIT. Et comment l'OIT est capable d'influencer l'avenir du travail. Parce que je crois que c'est ça, et que l'occasion du centenaire, ce sera la dernière occasion où l'OIT, ou justement en mobilisant l'intérêt extérieur, on peut réussir à relancer, donner une impulsion à la réforme interne de l'OIT. Je crois qu'on a absolument besoin de l'impulsion externe. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que d'être ici et de pouvoir s'adresser à un auditoire un peu au-delà des intéressés, the usual suspects, comme disaient les Anglais, c'est une grande occasion. Et bon, alors, pour conclure, je dirais que si on veut être absolument objectif, un peu cynique, on dira que le scénario de la banalisation, c'est probablement le plus probable. Parce que ça n'exige pas de décision. On laisse courir. Deuxièmement, ça permettra de tirer quelques ressources de l'intégration dans le système des objectifs de développement durable. Et troisièmement, ça évitera de susciter l'ire du plus gros contribuable, qui est aussi le plus gros passager clandestin du système normatif qui sont les États-Unis, parce que les États-Unis, surtout les administrations républicaines, ont toujours, de façon très forte, dit que l'OIT devait se cantonner à faire ce qu'elle fait, faire des projets, et son système de supervision dont ils profitent, parce que, justement, comme ils n'ont pas ratifié, ils peuvent superviser les autres, mais pas eux. Donc là, il faut être réaliste, il y a un obstacle de ce côté-là. Mais je crois que, bon, et d'ailleurs, le scénario n'est pas méprisable. Si l'OIT se banalise, bon, elle continuera à faire ce qu'elle fait, elle pourrait même avoir le prix Nobel. Je pense que ça sera finalement, bon, c'est pas du tout un scénario méprisable, mais je crois qu'elle peut mieux faire, et parce que ça serait vraiment un gâchis institutionnel, pour le dire clairement, de pas utiliser justement ce potentiel. Elle est la seule à avoir un mandat, et tout montre qu'on ne peut pas aller au-delà dans le système actuel des Nations Unies sur le plan de l'intégration. Et bon, la réforme des Nations Unies elle-même le montre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer avoir un système plus intégré au niveau universel que cela. Et au contraire, et ça je crois qu'on l'a dit hier, si on s'amusait à essayer de refaire ce qu'on a fait, on n'y arriverait même pas. C'est-à-dire on resterait en dessous. Et ça a été dit à propos de la déclaration de Philadelphie hier. Il serait inconcevable d'adopter un texte comme cela. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, en utilisant la pression qui s'exercera de l'extérieur, c'est justement de relancer et de démentir ce qu'un observateur très bien informé de l'OIT a écrit, un Américain, dans l'American Journal of International Law. Il a dit la pente de la moindre résistance, ça sera de célébrer le centenaire et de remettre à plus tard les réformes qui s'imposent.